Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, deux aveugles guéris.
Alors, vous lire Évangile de Matthieu, chapitre 9. Et il est question de guérison, comme nous en trouvons si souvent dans le message de l'Évangile en suivant Jésus. Il y a nombre de souffrances et de détresses qui trouvent finalement leur remède. Ce remède, eh bien, nous allons le voir. Alors, je vous ai dit Matthieu chapitre 9 et verset 27, un très court récit que nous allons commenter maintenant. Voilà, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache » mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce texte qui nous ramène, eh bien, finalement, dans les faits et gestes de Jésus, et notamment sur ces grandes vérités qui apparaissent dans l'Évangile, la délivrance, le secours, la guérison des malades. Lorsque l'on est un tant soit peu attentif, eh bien, à la lecture de la Bible, on s'aperçoit, et particulièrement du Nouveau Testament et au cœur même de l'Évangile, plus particulièrement, on s'aperçoit que Jésus a rempli une double mission. La première, c'est de guérir. La seconde, c'est de sauver. Et nous voyons que la première est là pour finalement mettre et inspirer dans le cœur de ceux qui ont été guéris, eh bien, une autre guérison d'une autre dimension, celle de l'âme, celle de l'esprit. On remarquera également que la guérison divine tient une place d'importance dans le message de Dieu. Et quand je parle de message de Dieu, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, comme nous l'avons ouvert il y a un instant, mais au-delà, c'est-à-dire eh bien, tous ces récits fameux de l'Ancien Testament, où il nous est raconté beaucoup de choses. La guérison divine, à dire vrai, est une grâce. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu fait aux hommes, et qui s'est pleinement réalisé selon les promesses d'un grand prophète de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, que j'ai cité il y a un instant, qui avait été annoncé il y a 800 ans avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus. Et nous savons qu'il y a eu naturellement eh bien, toutes sortes de confirmations lorsque le Messie est venu, a fait son apparition, et il n'y a pas une page de l'Évangile où il n'est pas question d'une ou de plusieurs guérisons, tout simplement. Ces innombrables interventions de Dieu en sont la preuve, particulièrement dans la souffrance physique, ou voire également la souffrance morale, parce qu'elle est sur les deux plans. On rencontre beaucoup de gens dans l'Évangile qui souffrent physiquement, puis il y en a d'autres qui sont tourmentés dans leur fort intérieur, au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme, mais c'est aussi, au même titre, eh bien, une intervention de Dieu pour la guérison. On l'appellera peut-être quand il s'agit d'une délivrance plus qui touche la vie intérieure, on l'appellera peut-être davantage eh bien, une libération de Dieu, mais c'est la même chose. Cette grâce de Dieu, avons-nous dit il y a un instant, a-t-elle pris fin avec tout simplement l'Église primitive, c'est-à-dire les premiers chrétiens ? Beaucoup se sont posé la question, et même des théologiens ont quelquefois imaginé en disant « oui, mais ça, c'était pour le temps des apôtres. C'était pour donner une impulsion à ce message du christianisme. » Alors la question se pose encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, est-ce que réellement cette manifestation de Dieu pour les souffrants, est-ce que cela a pris fin ou est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Alors que dit Jésus ? Alors le mieux, c'est d'écouter ce que Jésus a à nous dire. On sait très bien que dans, en quelque sorte, les dernières paroles de Jésus, on pourrait dire le testament spirituel de Jésus, dans un de ses évangiles que l'on appelle l'évangile de Marc, au chapitre 16, véritablement, la question que je soumettais il y a un instant, est-ce bien fini? Voilà que Jésus va dire le contraire. Que la guérison divine, la grâce de sauver et de guérir les malades, Jésus nous tient tout simplement un langage qui affirme que Dieu continue à faire son œuvre, qu'il a continué à faire son œuvre à travers tous les temps jusqu'à maintenant. Et il donnera un ordre, et ça sera, voyez-vous, un ordre de mission. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Là où il y a de la foi, ce n'est pas occasionnel. C'est quelque chose qui, tout simplement, se révèle et se manifeste parce que Dieu est toujours à l'écoute de la prière de la foi. Et que nous dit justement Jésus? Il va donner mandat après lui à tous ses disciples, qu'il a choisis pour l'instant, il en a 12. Mais après, ils vont se multiplier. Autant que l'évangile se répandra dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà l'ordre qu'il a donné. Il dira ceci, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il ajoutera cette parole qui souligne justement que le temps des miracles n'est pas révolu. Il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Naturellement, là où il y a de la foi, il y a l'intervention de Dieu, il y a guérison pour ceux qui souffrent. Alors il dira, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi Jésus dit-il ça? Ce n'est pas le fait d'imposer les mains, nous allons le voir dans notre développement. Et puis, quelquefois, un geste qui serait peut-être compris comme un geste religieux, ou un geste qui aurait une résonance de piété. Quand Jésus dit « ils imposeront les mains aux malades », c'est parce que justement il y a un fait derrière. Ce n'est pas le fait seulement d'imposer les mains, mais il y a une démarche de foi et d'espérance qui fait que, comme nous allons le rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, Dieu honore la prière de celui qui lui fait confiance. Donc Dieu n'a pas changé, il reste toujours le même, parce que c'est Jésus qui dira, au cœur même de l'évangile, il dira, mais quand bien même le ciel et la terre passeraient, et la terre et le ciel passeront, mais une chose qui demeurera à travers tous les temps, c'est que ma parole ne passera pas. Et sa parole, c'est précisément la promesse et la certitude que nous pouvons avoir dans notre cœur que ce que Dieu dit, il tient sa parole. Et quand il dit au malade qu'il sera guéri s'il met sa foi en lui, si véritablement l'invitation est faite au malade pour qu'on leur impose les mains et qu'ils viennent dans un acte de foi, Dieu se révèle et se manifeste. Et s'ajoute à cette affirmation que je viens de citer tout simplement, qui montre que celui qui a parlé, c'est Dieu, et Dieu est intemporel, c'est-à-dire qu'il demeure. Et nous savons qu'à la fin de la Bible, particulièrement dans le livre des Hébreux, il est dit ceci, que Jésus-Christ, et nous allons savoir pourquoi, est le même, est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que c'est lié à quelque chose qui est unique chez la personne de Jésus, c'est qu'il est mort, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il est mort pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être guéris dans l'espérance ou dans la foi de ses meurtrissures, mais qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Alors, on peut-être reposer le problème d'une autre manière. Oui, pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi il n'y a plus ceci et cela? Parce que peut-être nous pourrions penser qu'il n'y a plus de malades dans notre temps. On pourrait penser que dans notre 21e siècle, les souffrances ont disparu et que ça, c'était des mots d'hier, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je crois qu'il faut véritablement faire de la négation pour savoir que nous avons dans nos pays et partout des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires et qu'il y a hélas des cimetières. Ce qui montre bien que, de toute façon, il y avait des maladies hier, il y en a encore aujourd'hui. Et ça fait partie d'un fait de l'humanité, c'est que l'homme est frappé en raison de cette séparation d'avec Dieu et qui, avec les conséquences, et une des premières conséquences, c'est la maladie. Hélas, la maladie. Et le but ultime, c'est toujours la mort, naturellement. Donc, on pourrait dire, mais plus besoin de secours de Dieu. Et il semblerait que l'humanité, pourtant, pourrait penser cela, qu'elle n'a plus besoin de Dieu puisqu'il n'y aurait plus de souffrance. Or, on s'aperçoit qu'il y a toujours et toujours de plus en plus de souffrance et que les hommes devraient avoir de plus en plus besoin de Dieu. Et on s'aperçoit que c'est le contraire qui se produit. Alors, si nous posons encore d'autres questions, nous pourrions peut-être nous demander, mais l'homme et la médecine ont-ils atteint, s'il n'y a plus de malades, s'il n'y a plus de souffrance, alors on peut peut-être penser que les médecins ont atteint ce degré de perfection dans leur art ou dans leur science, que le mot maladie, que le mot douleur, que le mot mort n'existe plus. Hélas, ce n'est pas le cas. Même si nous bénissons Dieu de ce qu'il est donné à l'humanité des gens qui ont la connaissance des souffrances humaines, qui ont le savoir-faire, qui ont la dextérité pour intervenir, pour soulager, eh bien, on s'aperçoit que malgré tout ce dévouement, malgré toute cette compassion, on peut dire que la science humaine, la médecine, même si elle fait des progrès fulgurants et nous ne pouvons que nous en réjouir, eh bien, on s'aperçoit que, quelque part, les choses demeurent. Elles sont encore là. Alors, vient une autre question maintenant, mais pourquoi dans les églises ne prêche-t-on plus, ne parle-t-on plus ou n'entendons-nous plus prêcher le Christ ressuscité qui délivre et qui guérit parfaitement, comme au jour d'autrefois? Le langage a changé. Vous savez, quand on regarde un peu la vie dans l'Église primitive, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres, on s'apercevra que l'œuvre de Dieu de délivrance, de soulagement, de guérison, de transformation était présente à tous les instants. Ouais. Et lorsque nous regardons ce christianisme d'aujourd'hui, on s'aperçoit que on parle davantage de social, d'humanisme, de politique, de culture, mais malheureusement on n'entend que très rarement le souffle de la puissance libératrice de Dieu à travers la Bible. Et ça, c'est bien dommageable. Alors c'est peut-être le fait de nos pays occidentaux qui pensent que nous avons déjà atteint le sommet, qu'on n'a plus besoin de Dieu, qu'on peut se passer de la Bible, que Jésus fait partie peut-être des grands classiques que nous devons connaître naturellement pour enrichir notre culture. Mais on s'aperçoit que, quelque part, eh bien, l'homme d'aujourd'hui, autant que l'homme d'hier, que l'homme d'autrefois, a un immense besoin de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu dans sa vie, à commencer par ses souffrances physiques et ses souffrances morales. Les lits d'hôpitaux sont pleins. Les maisons de repos, et pour tous ceux qui sont touchés psychologiquement, frappés par la dépression, tout cela envahit notre monde. Alors, c'est vrai que ça pose question naturellement. Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons entendre d'ici quelques instants. Donc, il semblerait que le monde ait tourné la page, cette page-là en tous les cas. Et elle l'a tournée parce qu'elle est atteinte d'un autre mal, qui l'empêche finalement de croire, qui l'empêche de regarder à Dieu, qui l'empêche d'espérer dans un secours divin, dans un secours d'en haut du ciel. Et vous savez ce mal, comment il se nomme ? Incrédulité. Voilà. Il n'a pas d'autre mot. Il n'a pas d'autre nom. Et nous pourrions dire qu'il y a ces deux extrêmes. Il y a la foi d'un côté, la foi vivante, la foi agissante, la foi opérante, et il y a d'un côté l'incrédulité qui est finalement une sorte de sommeil, une sorte d'anesthésie qui fait que là, l'homme est invalidé, paralysé, il se dit « mais c'est pas possible, c'est incroyable !» Alors que pour le chrétien, lorsqu'il touche la parole de Dieu, lorsqu'il regarde du côté de la parole de Dieu, lui pense que tout est possible. Donc, ça devient croyable. Et si c'est croyable, c'est réalisable dans notre vie. Et là, Dieu agit et il se manifeste. En d'autres termes, ça pourrait se résumer dans notre temps, on n'y croit plus, tout simplement. On n'y croit plus. Parce que c'est une histoire ancienne. Un mal profond qui se cache sous le manteau, souvent, du formalisme religieux. On a souvent, relativisé cette puissance de Dieu, l'existence de Dieu, la manifestation de Dieu dans la vie des hommes, dans l'intervention de Dieu dans notre vie. Et on l'a mis dans un bel emballage, si vous voulez, que l'on appelle le formalisme. Parce que c'est dangereux de sortir du formalisme. Ça nous fait prendre des risques. Eh oui. Parce que la foi, c'est quoi ? c'est croire ce qu'on ne voit pas. Alors que l'homme est tellement d'une sensibilité, à, comme Thomas d'ailleurs, à de dire tout simplement, eh bien moi je ne peux, ou je ne veux, ou je ne pourrai accéder à la foi que dans la mesure où je verrai. Alors que tout le message de Jésus nous dit que si tu crois, tu verras. Il faut d'abord croire et ensuite on voit. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre situation. Et à cela Dieu a répondu, dans notre temps, comme dans tous les temps, comme dans l'Évangile, comme à chaque fois, par un christianisme de réveil, un christianisme formaliste. Dieu a donné un opposé, son opposé, qui est une puissance, une force, qui est le christianisme de réveil. Et quand Jésus est venu, il a soufflé sur tout cela. Il a soufflé sur le temple de Jérusalem. Il a soufflé sur, là, le ritualisme et les traditions des Juifs de l'époque. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre et de voir Dieu souffler encore dans notre vie, dans nos églises, dans notre pays et autour de nous. Voilà ce que dit l'apôtre Paul en ajoutant ceci, je l'ajoute, « Sache que dans les derniers temps, les hommes seront irreligieux, seront cruels, ils seront égoïstes, ils seront ceci. » Mais, il ajoute cette parole, « Ils auront l'apparence de la foi, oui, de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. » Qu'est-ce que Paul veut nous dire à travers ça? C'est que les hommes d'aujourd'hui, eh bien, peuvent avoir l'apparence d'être chrétiens, de satisfaire à leur devoir de conscience ou à leur devoir religieux, mais ce n'est pas parce que ces choses existent que nous sommes véritablement au fait même de la foi spirituelle. Il y a bien des gens qui font les choses par répétition, qui font les choses par routine, qui font les choses par conformisme, qui font les choses pour ne pas être jugés des autres s'ils ne les font pas. Mais ils en renient ce qu'il faut la force. Et la force, c'est une foi vivante, une foi dynamisante dans la personne de Jésus et dans sa parole, sur ses promesses. Autrement, ça ne sert à rien. Je peux toujours dire que je suis chrétien sans véritablement être engagé ou tout simplement vivre ce que je crois. Alors la vraie force, c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est l'Évangile. Et notre force, c'est de croire que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Et ça, ça change tout. Nous prions un Dieu, nous adorons un Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est resté dans une tombe, c'est un Dieu qui est sorti de la tombe, qui est sorti, qui a échappé à la mort et qui aujourd'hui eh bien, est vivant et vers lequel nous pouvons nous tourner. Le monde entier prie des morts. Ouais, c'est terrible. Je n'abuse pas ce que je dis. Hein. Le monde entier prie des morts. Dans toutes les religions du monde. Qu'il s'appelle Bouddha, qu'il s'appelle ceci ou qu'il s'appelle cela, il prie des morts. Que l'on prie les saints du christianisme historique, ça c'est sûr. Mais je pense que le chrétien qui a compris, le vrai chrétien, le chrétien de l'Évangile, je le souligne, eh bien prie son Sauveur et son Seigneur qui est ressuscité. Et ça, c'est autre chose. Donc, ce que Jésus craignait à la suite d'une petite histoire qu'il nous a racontée, vous savez, de la veuve qui vient solliciter le juge inique. Et la conclusion de cette petite histoire que vous retrouverez dans l'évangile de Luc au chapitre 17, nous voyons que Jésus craignait la défection de la foi dans les derniers temps. Je crois que nous sommes dans les derniers temps aujourd'hui. Ouais. On sent que les clignotants commencent à s'allumer de tous les côtés, hein, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de ceci et cela, ça bouge, hein. Ne serait-ce qu'encore que ce soir, ça bouge un peu partout. Hein. Mais Jésus donc sentait ce clignotant et annonçait plutôt, avertissait de ce clignotant qui allait s'allumer. Et le clignotant qui allait s'allumer dans les derniers jours, c'est cette parole que nous trouvons, que je restitue. « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il sur la terre encore de la foi ?» Et aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, est-ce que nous pouvons dire ? Est-ce qu'il y a encore cette véritable foi, cette foi ardente, cette foi vibrante, cette foi qui prend les promesses de Dieu, qui s'en saisit et qui s'y approprie, et où Dieu fait encore des miracles? C'est ça la question. Trouverai-je encore, tout simplement, de la foi? Dieu n'a pas changé, c'est nous qui changeons. Ça, il faut le dire. Hein. Parce que la foi, selon la parole qui nous est enseignée, c'est une foi qui est dynamique. C'est une foi qui est communicative, c'est une foi puissante, c'est une foi vivante, comme au premier jour, comme dans les temps où Jésus a marché sur cette terre, comme les premiers disciples ou les apôtres ont manifesté cette foi. Parce que cette foi-là, elle apporte tellement de choses de bon. Oui. Elle apporte la guérison et la délivrance et le salut, mais elle apporte la joie et la paix. Et ça, c'est inimitable. C'est le surplus de bénéfices que nous pouvons avoir lorsque nous touchons Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on a parlé d'incrédulité tout à l'heure, un mal profond et pernicieux qui se dissimule sous le manteau du modernisme, dans lequel les pratiques les plus païennes qui soient réapparaissent dans notre monde. Parce qu'à l'opposé de cette foi en Dieu, de cette foi en Jésus-Christ, de cette foi évangélique, il y a l'occultisme, il y a la magie, il y a toutes ces choses qui sortent du monde des ténèbres, qui proposent la guérison, qui proposent la délivrance, mais la source n'est pas la même. C'est du spirituel, mais un faux spirituel, un pseudo-spirituel. C'est pour ça qu'il faut revenir. Il faut revenir à Jésus, il faut revenir à sa parole. Parce que ce n'est pas l'occultisme et la magie qui va vous conduire à demander pardon de vos péchés à Dieu. Jamais. Et s'il y a éventuellement dans ce monde ténébreux, dans ce monde de ténèbres, guérison, ce n'est que transfert du mal pour l'échanger pour un autre mal. Attention, on ne s'y trompe pas. Quand Jésus guérissait, eh bien le mal était vaincu définitivement et les gens se convertissaient. Ils se tournaient vers Dieu. Ça, c'est autre chose. Un monde qui s'égare, faute de vouloir connaître, je dis bien de vouloir connaître. Les gens ne cherchent même pas à connaître. Moi, ce qui peut faire mal, c'est que nous avons, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des hommes et des femmes par centaines et par milliers qui sont en train de se tordre de douleur sur des lits d'hôpitaux ou peut-être dans leur maison. Mais ont-ils la pensée de crier vers le Seigneur pour qu'il les apaise, qu'il les délivre et qu'il les guérisse? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Ça, c'est dans les psaumes. Et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est autre chose. Pourtant, Jésus a dit à tous les hommes qui voudraient le suivre, qui voudraient lui faire confiance, écoutez, quand on est malade, on est dans la nuit, on est dans la souffrance, tout est sombre, tout est terrible. Et Jésus pourtant nous a dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. La vie. La lumière de la vie quand on est prêt de mourir. La lumière dans la vie quand on sait qu'on est atteint d'une maladie qui va nous emporter. Ça, c'est la lumière. Combien de gens dans leurs ténèbres de souffrance et de douleur devraient pouvoir être inspirés et crier vers Dieu en disant « Mais Seigneur, c'est terrible ce qui m'arrive, je souffre, donne-moi ta lumière. » Eh bien, quand on demande à Dieu qu'il nous donne sa lumière, il va nous envoyer Jésus. Il va nous envoyer sa parole. Et comme le dit le psaume 107, « Dieu envoya sa parole et il est guéri. » Je ne fais que restituer les textes de la Bible, hein, tout simplement. Et ça, c'est beau, c'est quelque chose de formidable. Oui. Qui suit-on et en qui met-on notre confiance? Je l'ai dit, le paradoxe, c'est que l'on accuse Dieu de tous les maux de la terre. Et Dieu est toujours un Dieu de grâce et de miséricorde, qui veut se signaler par ses bienfaits à sa créature. Donc Dieu ne change pas. Par contre, l'homme a changé. Il a changé parce qu'il ne croit plus dans le Dieu tout-puissant, mais fait plutôt confiance à l'homme faillible et limité qui guérit. C'est pour cela que derrière, naturellement, ces philosophies ou ces pratiques que l'on a appelées occultisme ou magie, il y a naturellement ceux qui les servent, c'est-à-dire les guérisseurs, les charlatans, la superstition. Eh oui, naturellement, tout ça, ça va avec. C'est pour ça que lorsque nous sommes en souffrance, tournons-nous vers Dieu. Ne mettons pas notre confiance dans l'homme limité. D'autant plus lorsque cet homme, à la fois limité et faillible, utilise des méthodes qui ne sont plus des méthodes médicales. On est encore d'accord avec les sciences médicales. Mais là, font appel à un monde qui est un monde de mensonges et un monde de mort, un monde de destruction. Alors attention. Donc, un seul remède. Il s'agit tout simplement de revenir à la source. Cette source porte un nom. Elle s'appelle Jésus et l'Évangile. Et là, nous arrivons tout simplement dans notre texte. Il n'était pas très long, vous avez vu. Au verset 27, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jésus fut suivi par deux aveugles. Assurément, c'est une terrible condition pour ces hommes. Parce qu'ils vivent. On ne sait pas depuis combien de temps, mais dans l'obscurité permanente. Imaginons-nous ce que ça peut être. Nous sommes toutes des bien-voyants, enfin j'espère en tous les cas, même si nous avons quelquefois des petites déficiences visuelles. Mais imaginons-nous la vie de ces deux hommes aveugles, frappés de cette terrible maladie, Infirmité qu'est la cécité, c'est la vie sans couleur, c'est la vie sans forme, c'est la vie sans soleil. Je dirais tout simplement, c'est la nuit sans aurore. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, pas d'autre possibilité. Aujourd'hui, si les hommes, nous en parlions tout à l'heure, ont fait des progrès médicalement, à l'époque de Jésus, il n'y avait aucune possibilité à partir du moment où quelqu'un commençait à perdre la vie, il n'y avait aucun espoir. Aucun espoir. Et il nous est dit qu'ils étaient deux. Ouais. Pourquoi il nous est dit qu'ils étaient deux? Parce que dans d'autres textes, il nous est dit que c'était un aveugle. Vous connaissez le plus fameux, il s'appelle Bartimée, naturellement. Parce que peut-être, c'est moi qui l'ai pensé, mais quand on est frappé par la misère, eh bien peut-être la condition de vie est peut-être moins lourde quand on la partage avec quelqu'un qui vit la même chose. Et puis, ces aveugles, ils devaient se partager finalement, eh bien, à la fois l'existence, malheureuse comme elle pouvait être, mais ils pouvaient peut-être s'entraider. Mais c'est toujours très limité, parce qu'un aveugle qui conduit un aveugle, hein, vous savez ce que Jésus dit, hein. Donc, il fallait qu'il y ait une autre possibilité, quelque chose qui s'ouvre pour eux. Mais peut-être la vie était un petit peu plus supportable parce qu'ils savaient qu'ils partageaient la même souffrance. Ils pouvaient se comprendre dans leur infortune. Alors, le passage qui nous est rapporté nous dit qu'ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus parce qu'il y avait certainement quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes qui les amenait, qui les amenait tout simplement à rechercher le contact avec Jésus. Ils le suivaient comme un aveugle, comme des aveugles qu'ils étaient. Ils le suivaient, donc c'était certainement pour rentrer en relation avec lui. Quand les hommes commencent à être inspirés pour savoir qui est Jésus, connaître Jésus, découvrir qui est Jésus dans sa parole par exemple, ou à travers d'autres moyens, mais quoi qu'il en soit, c'est pour rentrer en contact. Moi, si je suis quelqu'un, c'est pour peut-être un jour ou l'autre pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire peut-être mes besoins. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais on comprend peut-être mieux pourquoi ils suivaient Jésus, parce que l'histoire précédente qui les avait conduits sur les traces de Jésus, c'était l'histoire de la résurrection de la fille de Jaïrus. Vous connaissez cette fameuse histoire, elle est mémorable naturellement. Et vous savez pourquoi ils suivaient Jésus? Parce qu'ils avaient probablement été au fait, ils ne l'avaient pas vu puisqu'ils étaient aveugles, mais ils avaient été au fait que Jésus avait guéri une petite fille de 12 ans, non seulement guérie, mais il l'avait ressuscitée. Et ils s'étaient certainement dit, parce que quelquefois, la foi, elle grandit avec une intelligence qui nous vient de Dieu. Et ils s'étaient dit, quelque part, si Jésus a ouvert les yeux à une petite morte, à combien plus forte raison, eux qui étaient encore vivants, ils pouvaient le faire. Si Dieu est capable de faire le plus, il peut faire le moins. Et ça, c'est la foi aussi. Pour chacun d'entre nous, que Dieu est capable d'ouvrir les yeux à une morte. Imaginez-vous, on ne peut pas raisonner sur cette question, puisque quand on est mort, eh bien, c'est fini. Et il s'était dit, eh bien, s'il était capable de le faire là, d'une manière prodigieuse pour elle, qui était morte, alors pour nous qui sommes encore vivants, il peut le faire, naturellement. Et ça devait nourrir leur foi et leur démarche, pourquoi ils suivaient Jésus. Non seulement le texte nous dit qu'ils suivaient Jésus, mais ils criaient. Aie pitié de nous, fils de David. Ils criaient pour une bonne raison, car ils étaient sûrs que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. On ne va pas crier après quelqu'un quand on sait que c'est inutile, quand on sait que ça ne sera pas entendu, ou qu'il n'y a aucun espoir. Ils criaient parce qu'ils avaient de l'espoir. Et vous savez, on va remplacer le mot « crier » par le mot « prier ». Ou si vous voulez, on va lui mettre le ton « prier fort ». Quand on est convaincu d'une chose, on n'a pas peur de prier, on n'a pas peur de demander, on n'a pas peur de s'investir, on n'a pas peur de, comme on dit, remuer ciel et terre. Alors ils criaient naturellement, parce qu'ils étaient convaincus que le secours n'était pas loin. Ils ne voyaient rien encore, mais ils sentaient que ce n'était pas loin. Et vous savez, quand on sait qu'il y a une possibilité, qu'il y a une possibilité de guérison ou autre chose de délivrance, alors on n'hésite pas à tout faire pour l'obtenir. Vous savez, il y a des gens qui parcourent le monde, qui parcourent la France, qui vont d'un endroit à un autre, qui se déplacent peut-être de Saint-Nazaire pour aller à Paris, pour voir un spécialiste, pour voir un... On n'hésite pas à ce moment-là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit effort pour s'approcher de Jésus? Et vous n'avez pas besoin d'aller à Paris ou à Bruxelles, il est là. Il est autour de nous, invisible mais bien présent. Est-ce que les gens ne pourraient pas faire cet effort de dire « Seigneur, je suis tellement malheureux ou malheureuse, eh bien viens m'aider, Seigneur !» Crier à lui. Et ils n'ont pas hésité, et nous n'avons pas hésité lorsque nous avons un problème à crier vers lui. Vous savez, ils sont pleins de bon sens, hein, ces aveugles. Hein. Ouais. Et ils nous enseignent beaucoup de choses. Hein. Donc, les deux aveugles crient leur détresse à Jésus, qui, étonnamment, ne semble pas les entendre. C'est curieux, hein. Ouais. Et ça pose le grand problème des silences de Dieu, ou voire même des contretemps de Dieu. Pourquoi Dieu me répond-il pas? Pourquoi je suis encore dans l'attente? Pourquoi, Seigneur, j'ai crié à toi? Pourquoi, Seigneur, j'ai mis mon espoir en toi et tu ne réponds pas? Pourquoi, Seigneur? Alors, je vais vous dire, il y a trois raisons. Dans le texte, hein, ce n'est pas forcément des raisons qui sont pour nous, mais trois raisons. La première, c'est que Jésus attendait d'être parvenu à la maison. Le verset 28, vous avez remarqué avec moi, il nous est dit « lorsqu'il fut arrivé à la maison ». Vous savez pourquoi que Jésus attendait d'être à la maison? Parce qu'il avait recommandé précédemment, à, dans les miracles qu'il avait fait avant, « vous ne le dites à personne ». Et alors que quand il disait « vous ne le dites à personne », tout le monde le disait à tout le monde. Et là, pour l'histoire des aveugles, il va leur dire aussi « ne le dites à personne ». Et quand à chaque fois qu'il faisait cette recommandation, eh bien les gens le disaient mais le criaient sur les toits. Et là, il attendait de faire certainement quelque chose pour eux, mais dans la maison, dans l'intimité. Parce qu'il faut bien comprendre que le christianisme, que l'évangile de délivrance, de salut, et que tout ce que Jésus faisait miraculeusement, surnaturellement, c'est que Jésus n'a jamais été un exhibitionniste ou un amuseur de foule. Ce que Jésus faisait, il le faisait avec l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, et pas pour nourrir la curiosité, les yeux des hommes. Ouais. Parce que ce n'est pas un miracle qui donne la foi, c'est la foi qui amène au miracle, c'est le contraire. Le deuxième point de ce silence et de cette attente, c'est que cette attente permise a donné l'occasion aux aveugles de manifester leur détermination à guérir. Ouais. Quelquefois, Dieu ne nous exauce pas tout de suite. Mais il veut voir quelle est la nature de notre foi. Il veut voir si notre foi peut aller encore plus loin, toujours plus loin, encore plus loin, et de nous saisir en dernier moment d'une grande victoire, d'une victoire encore plus grande. Il y a un homme qui s'appelle Jacob, on en a parlé dimanche matin. C'est un croyant, naturellement. Et il dira à Dieu, dans un combat, dans une lutte, alors qu'il était en souffrance intérieure, il dira à Dieu, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Eh bien, Dieu, quelquefois, nous fait attendre, non pas seulement parce qu'il ne peut pas ou il ne veut pas nous donner immédiatement, mais il veut que nous prenions encore davantage. Et c'est à la dimension, au degré de notre foi que nous recevrons encore toujours plus. Et en nous faisant attendre, il cultive, il nous amène à développer, à cultiver notre foi. Parce que croire, attendre, s'accorde avec vouloir. Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je vais laisser tomber à la première occasion? Eux, ils auraient pu, finalement, baisser les bras en disant « ils n'ont pas entendu, on s'en va, terminé, ça ne sert à rien ». Si nous sommes déterminés à recevoir, mais Dieu va nous donner. Et puis il y a un troisième point de ces silences énigmatiques, c'est la persévérance dans la foi, jusqu'à l'exaucement. Et ça, ça s'étaye sur une parole même que Jésus nous a donnée, en forme de promesse. Écoutez, « Demandez, a dit Jésus, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il y a des degrés. Je demande, je reçois. Ensuite, je cherche et je trouve. Je frappe, c'est l'insistance. C'est de la détermination, de la pugnacité. Alors à ce moment-là, eh bien tout simplement, on va m'ouvrir. Je ne m'arrête pas à la première escarmouche. Je ne m'arrête pas à la première dissuasion. Même si je suis dissuadé, je vais continuer, continuer et continuer encore. Et c'est ainsi que Dieu a pu complimenter, par exemple, la femme cananéenne ou le serviteur ou le centenier qui était venu pour prier en disant « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La grande foi, elle vient de notre persévérance, de notre détermination, tout simplement, à recevoir. Les aveugles s'approchèrent de lui. Vous avez remarqué avec moi, ils l'ont suivi dans un premier temps. Ensuite, ils ont crié. Et là, ils le suivent. Ils auraient pu décrocher, hein. Comprenez? Trois étapes. Suivre Jésus, crier derrière lui, s'approcher de lui, c'est un modèle de démarche qui conduit à notre délivrance. Il ne faut pas lâcher le morceau facilement, mes amis. Parce que si vous lâchez le morceau facilement, vous ne verrez rien. Et notre expérience personnelle et l'histoire que nous connaissons, la nôtre et la vôtre, et dans bien des cas, sous ceux qui ont reçu de grandes bénédictions, ce sont ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ils ne se sont pas laissés défaire. Vous savez, on peut suivre Jésus de loin, mais il faut, pour être sûr de le rencontrer et de le rejoindre, lui emboîter le pas. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Ce sentier sur lequel nous marchons, derrière lui, c'est la foi. Tout simplement. Chemin invisible, mais solide. Pas de détour, pas d'impasse. Voilà, il y aura des croisements, toutes sortes de choses, mais nous le suivons, lui. Ça, c'est une chose. Bien des gens se déclarent chrétiens, ils le professent, ils crient et invoquent d'autres noms que celui de Jésus. Combien de fois nous avons entendu les gens en disant « Ben moi, je prie Marie. Moi, je prie un saint, une sainte, etc. etc. » Et Jésus nous dit bien « Nul ne vient au Père que par moi. » Alors qu'est-ce que l'on fait de l'Évangile? Qu'est-ce que l'on fait de ces paroles qui servent de base à notre confiance? Comment peuvent-ils être entendus? Comment peuvent-ils être entendus dans le ciel? Venir dans sa présence, se placer à son contact, s'approcher de lui, en réponse à ce que l'Évangile nous dit à la fin du Nouveau Testament, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Est-ce que nous sommes prêts à nous approcher du Seigneur? Parce que à partir du moment où je fais un pas, lui va en faire deux vers moi. Et à un moment donné, on va se retrouver. Il semblerait que les hommes ont peur de Dieu. Ils le fuient. À la limite, Dieu est obligé de courir après les hommes hein, et nous rattraper dans notre détresse en disant « Mais je peux faire quelque chose pour toi si tu le veux. » Il faut qu'absolument les gens, on en avait parlé dans une réunion, la peur de Dieu. Il faut absolument régler ce problème de la peur et de la crainte de Dieu. Dieu n'est pas venu pour nous faire peur. Il n'est pas venu pour nous donner la crainte. Il est venu pour nous dire tout simplement « Ne craignez pas !» et de reprendre courage dans nos détresses et dans toutes sortes de choses. Alors, nous constatons dans notre texte que c'est au moment où les aveugles se sont approchés de Jésus que Jésus s'est intéressé à eux parce que Jésus leur a dit tout simplement une parole qui a été le déclencheur de leur guérison, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ça, c'est la parole essentielle de notre méditation ce soir. Croyez-vous que Jésus peut faire quelque chose pour vous? Croyez-vous que Jésus peut faire quelque chose dans ma... Est-ce que je crois que Jésus peut faire quelque chose dans ma situation? Moi, je vous donne la parole. Vous la recevez, malade, souci, d'une manière ou d'une autre, mais la question, elle est posée, c'est Jésus. Crois-tu que je peux faire ça pour toi, tout simplement? C'est une parole, c'est une réponse à leur recherche. J'ajouterai que toute prière sincère, qui est l'expression du cri du cœur adressé à Jésus-même, si elle n'est pas suivie d'exaucement immédiat, est toujours entendue. Eh oui. Seigneur, je t'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Ça ne veut pas dire, et je ne dois pas en conclure, que parce que je n'ai pas de réponse, que Dieu n'entend pas. Je l'ai souvent dit en prédication, il y a trois façons de répondre à Dieu. Soit Dieu nous répond non, soit il nous répond oui, ou il ne nous répond pas. Mais de ne pas nous répondre, ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui non plus, ça veut dire attends. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Alors Jésus pose cette question, croyez-vous que je puisse faire cela? Tout le fond du problème est là. Tout le secret de la guérison de ces hommes repose sur cette simple question. Est-ce que vous croyez que moi, Jésus, je peux intervenir dans votre vie? Nous avons vu il y a un instant que suivre Jésus ne leur a pas apporté la guérison immédiate. Ils l'ont suivi. Parce que si nous le suivons avec une conception de formalisme, de religiosité sans conviction, ça ne suffit pas. Nous avons vu également que crier ou prier ne les a pas libérés instantanément non plus. Prier sans réelle assurance ou certitude d'être entendu, c'est prier en l'air. Multiplier de vaines paroles, comme Jésus nous recommande de ne pas faire dans le sermon sur la montagne, ça ne sert à rien. Nous avons vu que s'approcher dans la présence du Seigneur ne les a pas automatiquement guéris. Ça n'a rien fait. Mais tout cela... c'était quelque chose de nécessaire que j'appellerais que c'était tout simplement le cheminement pour les amener à cette grande question dont leur cœur avait seule la réponse, à travers une réponse tout simple, oui ou non, je crois ou je ne crois pas. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui ou non ? Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai pour tous ceux qui lisent la Bible, c'est vrai pour tous ceux qui entendront ce message, d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui avons la clé. On dit « Seigneur, tu fais », mais c'est nous qui avons la clé pour que Dieu fasse. Et cette clé, elle s'appelle tout simplement la foi. Jésus ne réclame qu'une chose, une unique, à ces deux aveugles, c'est tout simplement croire, croire et croire encore. Faire confiance et rien d'autre. Oui. Ne mettons pas en avant nos mérites, nos états de service religieux, nos efforts, nos bonnes œuvres, ça ne sert strictement à rien. Ouais. J'aurais dit ça il y a 3-4 siècles, on m'aurait pendu haut et court, ça c'est sûr. Non, ça ne sert à rien. Croire dans ses capacités infinies, oui, parce que Jésus est tout-puissant. Croire qu'il est toujours le même, oui, parce que Jésus est vivant. Croire qu'il veut et qu'il peut guérir, eh bien c'est vrai. C'est ça ce que nous avons besoin. Croyez-vous que je peux ? Et croyez-vous que je veux ? Et moi, je voudrais vous répondre à cette question, c'est que Dieu veut nous guérir et il peut nous guérir. Nous avons tout. Tout simplement. Les aveugles croyaient que Jésus pouvait les guérir. Et ils ont répondu comme il fallait répondre. Non pas une réponse de civilité ou de formalité. Ils ont répondu oui, au fond de leur cœur. Et ils ont répondu tous les deux ensemble. Il y en a un qui aurait pu répondre oui, puis l'autre non. Ils ont répondu tous les deux oui. Réponse qui a été sans équivoque, sans ambiguïté, sans hésitation. Il n'y a pas eu de peut-être, on va essayer, on va voir. Comme quelquefois, nous l'entendons. Souvent, on a posé la question aux gens, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour vous ? Ben, on peut toujours essayer, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Alors là, ça casse tout. Ça vous met la foi par terre, il ne reste plus rien du tout. Non, c'est oui ou non. Si vous dites non, ben c'est non. Ben, comme ça, vous verrez rien. Plutôt. La vraie foi ne se démontre pas par de beaux discours. C'est vraiment un sérum de vérité. Ah oui. C'est ce que l'on dit, on appelle ça un sérum de vérité. Là, il n'y a pas à cacher. On croit, on reçoit, on ne croit pas, on ne reçoit pas. Ce n'est pas plus difficile, et ça ne trompe pas. Parce que je voudrais quand même affirmer que là où il y a de la foi, on reçoit. Vous savez ce que Jésus a dit un jour, dans une belle histoire également dans l'évangile de Marc, et puis l'évangile également de Luc, il a dit « mais tout est possible à celui qui croit ». Vous vous rendez compte ce mot ? Tout est possible. Tout. Qu'est-ce que je peux espérer, Seigneur ? Ben moi, ce que je peux espérer, c'est que mon problème numéro un, celui qui me tient à cœur, ce mal récurrent, ce mal permanent, ce mal chronique, qui est à l'intérieur de moi-même, qu'il soit physique, qu'il soit moral ou spirituel, Seigneur, j'aimerais tellement que tu m'en délivres. Alors si je te réponds oui, ben tu vas le faire. Parce que tu veux que j'ai la foi d'un enfant, tout simplement. Parce que tout est possible à celui qui croit. Moi, ça me semble une montagne. Ça me semble l'Himalaya. Ça me semble quelque chose d'incommensurable. Je suis incapable de tout cela. Mais tout est possible à celui qui croit. Ouais. La foi défie la raison. Et si je laisse mes pensées, si je laisse mes craintes, si je laisse mon intelligence, si je laisse mes déductions, mes analyses prendre le pas sur la foi, eh bien, à ce moment-là, il ne se passera rien du tout. Quand on ne reçoit pas, il ne faut pas en tirer la conclusion que Dieu n'existe pas. Quand je ne reçois pas, eh bien, le problème n'est pas chez Dieu, mais il est chez moi. Et je dois me replacer, tout simplement, reconsidérer finalement eh bien, notre faiblesse, notre petite foi. Alors vous allez me dire, oui, ben, vous savez, on n'a pas été les premiers. Quand je vois Pierre qui entend Jésus lui dire « Jean de peu de foi ». Quand il dit à Thomas la même chose et bien d'autres, alors on n'est pas plus que Pierre, on n'est pas plus que Thomas, on n'est que des hommes. Et quelquefois on peut manquer de foi. Et manquer de foi, c'est quand même dommage. Je dis bien c'est dommage parce qu'on continue à tourner en rond, on continue à souffrir. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut la demander à Dieu, il va nous la donner. Vous savez ce que nous dit Jacques par rapport à la foi ? et par rapport à la sagesse qui nous met dans un cadre de foi. Si quelqu'un manque de sagesse ou s'il manque de foi, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Mais demandons la foi à Dieu, il va nous la donner. C'est la première chose qu'il veut nous donner avant même la guérison, parce que si vous n'avez pas la guérison, c'est que vous n'avez pas la foi. Et Dieu veut nous donner la foi pour avoir la guérison. Vous avez déjà vu une voiture qui marche sans carburant? Oui, quand vous la poussez. Tout simplement. Eh bien, ce qui permet à Dieu d'agir, excusez-moi, je ne voudrais pas être trop trivial dans cette... Mais c'est quelque chose qui nous frappe. La foi, c'est encore quelque chose, c'est ce qui anime l'action de Dieu, la main de Dieu. Alors on dit, Seigneur, tu ne guéris pas, mais le Seigneur nous dit, mais je ne guéris pas parce que t'es à plat, t'es en panne, t'es vide. Et il nous propose la foi pour que nous remplissions notre cœur de foi et que nous puissions faire de belles expériences avec lui. C'est ça, justement. C'est ça ce qui nous manque. Alors il n'y a pas de honte à lui demander d'avoir la foi et d'avoir plus de foi. Moi, personnellement, je le demande tous les jours, hein. Je dis, Seigneur, donne-moi toujours de plus en plus de foi. Parce que nous sommes confrontés avec des situations personnelles ou autres. Nous sommes confrontés avec des questions, avec toutes sortes de choses. Et je me dis, Seigneur, donne-moi d'avoir une réaction spirituelle. Parce qu'autrement, on peut vite partir dans toutes sortes de dérives. Et on en a besoin tous les jours, de la foi. Et cette foi, elle nous rend heureux parce qu'elle nous réjouit. C'est vrai. Et elle nous amène la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Alors n'ayez pas peur de demander. Donne-moi plus de foi, Seigneur. Tout simplement. Et je termine. Alors Jésus leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. On revient toujours. Toujours votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi, selon ce que vous croyez. Et résultat miraculeux, résultat inouï, leurs yeux s'ouvrirent. Le paralytique marcha. Le sourd s'est mis à entendre. Le muet a parlé. Le mort a ressuscité. L'eau a été changée en vin. Les pains et les poissons se sont multipliés. Et tout cela repose sur cet acte, cette disposition morale de notre cœur à faire confiance à Dieu. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. Je vous ferai remarquer au passage, ce n'est pas l'attouchement des mains de Jésus que l'on appelle l'imposition des mains. Ce n'est pas cela sur les yeux qui les a guéris, mais c'est leur foi qui les a libérés et qui plutôt a libéré la puissance de guérison dont Jésus était le dispensateur. Jésus est celui qui est venu pour donner. Il a déjà donné sa vie. Il veut nous donner tout ce qui va avec sa vie, c'est-à-dire notre vie, notre guérison, notre salut, notre pardon, tout, tout vient avec. Et il est le dispensateur, il est envoyé par Dieu pour être celui qui donne aux hommes. Alors, c'est tout simplement, eh bien, c'est pas l'imposition des mains, mais c'est tout simplement leur foi dans la personne de Jésus. Encore une fois, Jésus a guéri en réponse tout simplement à la confiance de ces hommes. Selon votre foi, à la mesure de votre foi, selon ce que vous avez bien voulu croire de ce que j'étais capable et de ce que je pouvais, ce que je voulais faire pour vous. Une grande foi reçoit beaucoup. Alors vous avez le contraire. C'est pour ça qu'on peut prier, hein. Donne-moi plus de foi, Seigneur. Toujours plus de foi. Je termine, je dirais que chaque chose a son secret, qu'il faut découvrir, mais dont Dieu nous révèle, naturellement, quand il s'agit des choses spirituelles. Chaque serrure a sa bonne clé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai mes clés. Elles sont à moi, je les garde. Essayez de vous rentrer chez moi avec vos clés. Ben, vous n'allez pas rentrer. Vous allez pouvoir mettre la clé dans la... Enfin, ça rentre ou ça ne rentre pas. Hein. Surtout que maintenant, ils font des clés électromagnétiques, là, vous savez, on les passe, hop, c'est comme ça maintenant chez nous. Alors, Hein. Mais pour vous dire, quand on prend l'ancien système de clés, de serrures, ça correspond bien. Ça rentre dans la serrure et après vous tournez et voilà, la porte s'ouvre. Eh bien, dans le ciel, il y a une porte qui s'ouvre avec une clé. Et elle est pour tout le monde, ces clés. Ouais. C'est tout simplement notre confiance, notre foi. Le miracle de la guérison divine a sa réponse tout simplement avec cette clé que l'on appelle la foi. Alors, je dirais, je termine avec ça, qui veut croire, écoutez bien, qui veut croire, peut croire. Trop souvent, nous avons entendu les gens nous dire « Mais je ne peux pas croire, j'aimerais avoir la foi que vous avez. Mais moi, je ne l'avais pas avant. » Non, je ne l'avais pas avant. Je l'ai eu quand je me suis trouvé dans des situations où là, Dieu m'a interpellé, m'a parlé, et il m'a enseigné sa parole que j'ai cru. Oh, c'est encore lui qui m'a donné la force de le croire. C'est encore lui qui m'a donné le coup de main. Et si on veut, on peut. Alors, qui veut croire, peut croire. Alors Jésus nous dit ce soir, déjà pour commencer, pour avoir la foi, et ensuite cette foi pour avoir la guérison, pour avoir tout ce que vous avez besoin, croyez-vous cela. Alors on va simplement courber nos têtes, on va remercier le Seigneur, et que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Voilà, quelques instants de prière s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier, parce que ta bonté, ta fidélité, Seigneur, est merveilleuse pour les hommes. Oui, tu n'es pas venu pour nous sanctionner, tu n'es pas venu pour, en effet, Père éternel, nous anéantir. Mais tu as vu l'homme touché dans sa misère, dans sa souffrance, dans ses douleurs. Tu l'as vu profondément, Seigneur, là, courbé, Seigneur, à travers tous les chagrins de l'existence et de la vie. Mais, Seigneur, tu nous as dit, et tu nous as donné la clé par excellence, qui est la clé, Seigneur, qui ouvre toutes les promesses de Dieu, qui ouvre toutes les propositions que tu nous fais à travers l'Évangile, mais à travers une personne particulière, la personne de Jésus. Alors Seigneur, je veux bien comprendre une chose, c'est que je manque de foi, mais ce manque de foi, eh bien je peux venir vers toi sans honte, sans réserve, parce que Seigneur, je sais que tu es capable de me la donner simplement et surtout sans me faire de reproches. Oui Seigneur, ton grand désir, ton plaisir même, là où tu te réjouis, c'est de voir des hommes et des femmes qui te font confiance. Alors Seigneur, tu nous bénis ce soir. Tu nous donnes encore, eh bien, Seigneur, un nouveau souffle, Seigneur, dans notre vie, pour regarder à toi, et ainsi, Seigneur, vraiment nous confier complètement et totalement. Et si nous te répondons quelque chose, si tu nous demandes, crois-tu cela? Eh bien, je veux te répondre de tout mon cœur. Oui, je le crois. Alors, merci, Seigneur, pour l'exaucement que tu vas ajouter à ma confession, à ma détermination à recevoir, et à ma simple prière de confiance. Amen. Amen.